entre Loire et loin. C'est le magazine du Gâtinais, comme chaque samedi à 10h sur les ondes molles et tranquilles de C2L. Bonjour à tous, merci de nous écouter. Au sommaire de ce troisième numéro, nous écouterons Émilie Rigé-Collins, autrice du Gâtinais, qui compte une bonne quinzaine de romans à son actif. Nous entendrons également Aurélie Plot, avec qui nous parlerons théâtre, puisqu'elle met la touche finale à son nouveau spectacle. Au nouveau spectacle de la compagnie, donc, Jeu est un autre, une mise en scène de la pièce de Rainer Müller, Quartet. Nous entendrons aussi Jean-Paul Billot, le président de l'agglomération montargoise, qui évoquera avec nous les grands projets de l'aglo pour les mois et années à venir. Et pour finir, nous irons nous balader du côté du pôle culturel de Courtenay, où une exposition met en scène des Curtiniens, des vies d'hier à aujourd'hui. Tout ça avec la complicité, bien sûr, de Sandrine Manteau, de Patrice Avzard et de toute l'équipe. C'est entre Loire et loin. Et je vous propose, tiens, pour commencer cette émission, d'évoquer cette exposition à Courtenay à travers un texte inspiré d'une des images qui sont exposées là-bas, un texte écrit et lu par Sandrine Manteau.
Je suis celle qui lit. Et entre ses mains, qui le tient, qui sourit et ne dit rien. La blouse que je vais me sied. Pas de dentelle ni de velours, de flanelle ni de brandebourg. C'est cette grossière toile, cette coupe quasi monacal que j'ai choisi. Je lis. C'est sa seule coquetterie, penserez-vous. Je l'ai compris. Mais vous n'avez rien compris. Je suis celle qui lit. Regardez-moi d'un peu plus près. Serais-je Eugénie Grandet ? Ou la duchesse de Langeais, de Don Quichotte le portrait, ou celui de Dorian Gray. Ne savez-vous pas mon prénom ? Je suis Emma ou Bovary. Je suis Nana ou Belle Amie. Suis-je Paul ou sa Virginie ? Suis-je Alceste ou bien Gervaise ? Ceux qu'on déteste, celles qui vous plaisent. Antigone ou encore Médée, Desdémone ou bien Dulcinée. Je suis reine ou je suis catin. Je suis l'ange ou bien le malin. Je suis femme et puis je suis homme. Je suis l'humanité en somme, je suis... Je suis celle qui a lu, qui lit et qui lira. Ma planche de salut est dans ce livre-là. Pas d'enfant sur ma hanche ou qui tire ma manche. Pas de mari à mes côtés. Je ne suis pas la mariée. Je suis l'inutile, la futile. La honte de la famille, le poids mort, la fille. Je ne ferai pas la vaisselle, je ne ferai pas le ménage. Je suis celle qui tourne les pages. Veux-tu que j'ouvre la mer rouge ? Je le fais sans que rien ne bouge, ou presque. Voici Gilles le picaresque. Et d'un bruit d'aile, Julien Sorel. Soudain surgissent Méphisto, Don Juan, le père Goriot, la Merteuil, Lancelot du Lac, Ulysse, Monsieur de Rastignac, Valjean, Fantine et sa Cosette, et puis Justine et Juliette. De mon sourire de Joconde, je fais et je défais les mondes. Le temps sur moi n'a pas de prise dans ma sage tunique grise. Je suis le noir, je suis le blanc. Je suis le noir, je suis le blanc. Celle qui décide du temps, qui l'abolit et le distend, qui l'embellit, lui dit « attends ». Qui s'échappe et se réfugie, qui rit sous cape ou étudie, qui rêve et qui s'alanguit, qui ose ce qui est interdit. Je suis celle qui choisit ses vies. Celle qui lit.
Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero papa braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì. Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. La 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 la.
C2L.
C2L. Depuis Chalette.
La radio entre Loire et Loing.
Vous écoutez C2L et nous sommes entre Loire et Loing. C'est l'heure du magazine du Gâtinais que vous pouvez retrouver en vidéo sur la page Facebook de l'émission Entre Loire et Loing. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, dites-nous ce que vous pensez de nos entrevues, de nos invités. Et à propos d'invités, c'est au tour de la romancière gâtinaise Émilie Rigier, ou Émilie Collins, c'est selon l'humeur, de se confier au micro de Sandrine Manteau, Entre Loire et Loing.
Alors aujourd'hui, on invite une jeune femme qui a déjà tous ces bouquins-là à son actif. Alors, on va en laisser certains de côté. On va les mettre juste là pour voir le volume, en fait. L'idée, c'est le volume. Et puis, on va s'intéresser, bonjour Émilie Rigier.
Bonjour Sandrine.
À cela. Oui. D'accord. Et puis, on va passer en revue, alors, tous ces livres qui sont tes bébés. Moi, ouais. Je suis impressionnée.
Je suis mère de famille nombreuse.
Oui, c'est ça, t'es mère de famille nombreuse. Et en fait, on va les passer en revue parce qu'ils me donnent tous envie.
Ouais. C'est un bon
d'abord, les objets en soi, ils sont magnifiques. Et ça te fait particulièrement plaisir quand je te dis qu'ils sont magnifiques parce ouais. que la plupart des pochettes, c'est ton amoureux qui les a faites. D'accord.
Oui.
Alors voilà, déjà par le...
photo, et donc c'est lui qui les fait.
Voilà. Et c'est des beaux bébés. Donc celui-ci, par exemple.
Celui-ci, il a une histoire en plus. Pour trouver les bonnes roses, on a fait 5 ou 6 fleuristes. Et on les a trouvées chez le fleuriste qui est, tu sais, dans la galerie marchande de la Chaussée.
D'accord.
Où ils ont toujours des fleurs absolument magnifiques. Et donc, c'est là-bas qu'on les a trouvées.
Voilà. Et les assiettes, c'est pareil. Vous avez
c'est
cassé beaucoup d'assiettes.
C'est une assiette de famille qu'on... on a fait la place dans les placards.
Alors, tu m'as expliqué que les assiettes cassées, c'est un roman épistolaire.
Oui. Uniquement un échange de lettres. Tu as un homme qui a 35 ans à peu près, qui se balade et par hasard tombe en arrêt devant une galerie d'art et s'offre un portrait d'une femme qu'il fascine complètement. Et il est tellement fasciné qu'il finit par lui écrire. Sauf que la photo, elle a une trentaine d'années. Donc en fait, il s'adresse à une femme.
À une vieille femme.
Voilà. Et donc c'est toute une histoire qui va se construire entre les deux uniquement par les lettres. Voilà.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec toi, on passe d'un style à l'autre.
Oui.
Et d'un univers à un autre univers.
Mais parce que ça dépend de mes humeurs.
Oui.
Ça dépend de quoi j'ai envie de parler. Ça dépend si j'ai envie d'être sérieuse, si j'ai envie de faire court. Si... Voilà, je pense qu'on est tous pareils. On est tous divers.
Avant de continuer, les feuillages.
Oui.
Raconte-nous comment tu es arrivée à l'écriture. Et quel est ton rythme?
J'ai commencé, j'étais toute gamine. J'avais des petits carnets dans les poches et tout ça. Après, j'ai arrêté pendant des années parce que je faisais des études qui me passionnaient, l'histoire de l'art, école du Louvre. Et donc, j'avais déjà tellement à apprendre que j'avais pas besoin de mon monde imaginaire à côté.
L'école du Louvre, c'est l'élite, déjà.
Oui. Rogère. C'est les passionnés, en tout cas. Oui. Ouais, voilà. C'est vraiment une passion. Moi, je m'étais spécialisée en art de l'Inde et d'Asie du Sud-Est. Donc, je donnais des conférences aussi au musée Guimet, après, à Paris. Voilà. Et après, j'ai tenu un hôtel-restaurant. Et donc, j'avais encore moins le temps de rêvasser. Et après, j'ai recommencé à écrire. Voilà. Donc, je suis revenue à l'écriture. Le premier que j'ai réécrit, c'est celui-ci.
Ah.
Le temps de faire sécher un cœur, qui donc, a reçu le prix Femme Actuelle en 2018 et qui, là, est sorti maintenant en format poche. Et là, c'est une histoire d'amour fraternelle. Donc, tu as un motard qui a un accident de moto, qui devient aveugle, sauf qu'il est photographe, donc il n'a plus aucune raison de se lever le matin. Et en fait, c'est grâce à son frère qu'il va survivre à cette épreuve et se reconstruire. Voilà.
C'est pure fiction, c'est des rencontres.
Pure fiction, j'avais à l'époque deux enfants, le troisième n'était pas encore né, et je les voyais commencer à tisser des liens entre frères, et j'avais envie de parler de ce lien très particulier qu'on peut avoir entre frères et sœurs.
Alors, en plus, tu m'as rajouté dans ton parcours des enfants, trois enfants.
Trois enfants, trois petits garçons que j'appelle les lutins.
D'accord.
Parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases.
Bon, on ne va pas dire ton âge, mais je suis impressionnée.
42.
Je suis écœurée, en fait. Je ne suis pas impressionnée, je suis écœurée. Bon, on continue. Un hôtel à Paris.
Alors, encore une couverture d'Hergé. J'adore cette photo, je la trouve très, très belle.
Hergé, c'est ton amoureux.
C'est mon amoureux, voilà. Et avec celle-ci, là, en fait, c'est quelque chose à part. C'est des recueils de nouvelles qu'on fait avec trois autres amis qui ont également eu le prix Femme Actuelle.
On change. Il y en a un autre, je crois.
Non, bah, c'est ces deux-là.
C'est ces deux-là.
C'est ces deux-là.
D'accord.
Et donc, on fait une fois par an, on choisit un thème et on écrit une nouvelle, tous sur le même thème.
Alors, je retourne le bouquin, voilà. Tac, et on rencontre, voilà, les amis.
On rencontre Franck Leduc, Dominique Van Cottem et Rosalie Lowy, qui sont trois grands auteurs de talent.
Et vous vous êtes rencontrés comment, Raphaël ?
Parce qu'ils ont eu le prix Femme Actuelle aussi. Alors, Franck, en même temps que moi, en 2018, et les deux copines en 2017. Voilà, et maintenant, on est comme les quatre doigts de la main et Hergé fait le pouce avec les photos des couvertures.
C'est beau, ça. Ouais. Et donc, le prochain va sortir quand ?
Écoute, on a été un petit peu retardé. En fait, je vais être très honnête, on est retardé à cause de moi parce que comme j'ai arrêté de fumer, j'ai du mal à écrire. Voilà. Ça me bloque dans mes rituels et tout. Donc, je réapprivoise.
Ah oui, ça te bloque dans les rituels, c'est intéressant.
Voilà. Je réapprivoise petit à petit et donc on va faire je vais faire de mon mieux pour ne pas planter les copains, mais ça devrait être. En tout cas, ce sera cette année.
Avant de continuer les autres, je sais que tu fais aussi des ateliers d'écriture.
Oui.
Raconte.
Alors, j'ai démarré atelier. Déjà, moi, j'ai un passé de conférencière. Donc, j'aime retransmettre ce que je sais. Je dirais même plus que pour moi, c'est une responsabilité quand on a eu la chance d'apprendre des choses, de les retransmettre à ceux qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'apprendre. Et donc, j'aime ça. Et donc, j'ai ouvert des ateliers d'écriture qui l'année dernière, avaient lieu à la librairie du Hérisson, donc à Montargis. Cette année, à la librairie des écoles, parce qu'on est une petite ville. Donc, moi, j'aime bien travailler avec tout le monde. Et donc, je reçois des gens qui... Alors, c'est un atelier d'écriture où les gens viennent toute l'année, une fois par mois.
Et ils montrent ce qu'ils ont produit.
Non, on fait ensemble. Donc, l'année dernière, en fait, chaque participant écrivait une nouvelle. Et à la fin, on a fait un recueil à titre privé, pas en librairie, de toutes les nouvelles. Donc, c'était génial. Et cette année, je monte un petit peu le challenge. Ils écrivent un roman tous ensemble.
Un roman tous ensemble,
ouais,
comme un cadavre exquis.
Non, en fait, plus sur le principe d'un roman épistolaire où en fait ils incarnent chacun un personnage et ça se mélange et c'est génial. Et ils sont partis de la même lettre que j'ai écrite, les deux groupes, et ils construisent des histoires complètement différentes et c'est génial.
Tu fais un peu de scolaire aussi ?
Je fais aussi des interventions, alors en centre de loisirs, donc là on est en école primaire, en maison des jeunes avec des ados. Donc, c'était très drôle parce que le dernier, il y avait mon deuxième lutin qui était là et qui a adoré. Donc, c'est super. Et je fais aussi les classes à thème en primaire. Et dernièrement, j'ai commencé à collaborer avec une association montargoise qui offre des lieux de vie de sociabilisation à des personnes fragiles. Et du coup, je travaille avec eux sur l'atelier d'écriture et on a fait une première séance et hyper émouvant.
Donc stop, Émilie voilà. Rigier, maintenant écrivain, on y retourne.
Ouais.
Celui-ci, tu m'as dit, on prend celui-là.
Oui, parce que celui-ci me touche beaucoup, L'oiseau rare, parce que c'est l'histoire d'une reconstruction après une relation toxique. Et c'est quelque chose qu'on croise assez souvent. C'est aussi une histoire d'amour, mais en fait, je voulais que le personnage féminin, en l'occurrence, se reconstruise avant de retomber dans une histoire d'amour.
Émilie Collin.
Émilie Collins.
Collins.
Collins. S'il te plaît. Collins, oui, parce qu'en fait, donc là, on est dans le contexte d'une histoire d'amour et que mes histoires d'amour sont publiées sous le nom d'Émilie Collins. La littérature générale sous le nom d'Émilie Rigier, qui est mon vrai nom. Et c'était pour distinguer les deux.
Et tu vas continuer comme ça ?
Non, maintenant, tout va être Émilie Rigier parce que je deviens schizophrène. On
oui,
est déjà beaucoup
pense,
dans ma
j'y
tête.
J'y pensais. Enfin, je
voilà.
C'est très bien. Je n'ai pas besoin de te conseiller quoi que ce soit. Ça ?
Les murs des Je t'aime. Alors ça, c'est concours de nouvelles fait par la maison d'édition Voyelle, qui est une maison orléanaise. Concours de nouvelles sur le thème l'œuvre d'art, mais il fallait que l'œuvre d'art soit vivante. Et donc bon, là, on rentrait dans un univers fantastique que je n'avais jamais abordé, mais ayant fait l'école Hulot, je ne pouvais pas laisser passer. Et donc, j'ai écrit sur le mur des Je t'aime, où je trouve la symbolique absolument magnifique.
Bon, le mur des Je t'aime, le créateur se trouve...
Frédéric Baron. Je l'ai rencontré grâce à Territoire d'écriture. J'ai rencontré Frédéric Baron, qui a lu la nouvelle et qui m'a appelé pour
et
me dire qu'il avait adoré la nouvelle.
Qui habite le Gâtinais, qui habite Saint-Hilaire-les-Andrézy, en l'occurrence. Coucou Frédéric.
Ouais.
Ah, l'amour, l'amour. Le tien.
T'as vu comme je suis belle ?
Oui, t'es belle.
Je suis pareil que là. Je suis mieux coiffée. Je suis mieux maquillée.
T'es belle. Il y a peut-être des photos sexy à l'intérieur.
Non. Soft.
Soft.
Soft. C'était pas le propos.
En tout cas, il y a plein de belles photos. Hein. Elles sont pas forcément sexy, mais enfin, si la beauté est sexy, quelle qu'elle soit, les photos sont sexy dans ces cas-là. Beaucoup de photos de...
Toutes les photos sont d'Hergé. Des photos de chaises ?
Oui, enfin, de chaises, de terrasses, de café.
De chaises.
De chaises.
Alors, c'était avant le Covid, donc ça n'a rien à voir avec, même si je compatis, hein, ayant tenu un hôtel-restaurant, j'imagine ce qu'ils vivent. En fait, Hergé avait commencé à prendre des photos de chaises dans la rue et je ne sais pas pourquoi j'ai été obnubilée par ces photos de chaises. Ça me parlait, pour moi, ça racontait une histoire.
Donc à chaque fois, il y a une photo et tu as écrit une petite histoire qui correspond.
Hergé aussi a écrit parce qu'il écrit très très bien, il a une très belle plume. C'est même comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis tombée amoureuse de ses mots avant de rencontrer l'homme. Et donc, dans ce livre, il y a des textes de lui et des textes de moi, mais on a refusé de les signer parce qu'on veut que ce soit vraiment une œuvre de fusion.
C'est beau ça, c'est très beau.
Voilà.
Le dernier, c'est le petit bébé.
Top to Bottom. Donc là, on est dans l'univers du street art. Et c'est donc une histoire d'amour, mais avec des personnages très engagés, puisque les graffeurs sont très engagés.
Alors, en fait, tu fais partie des bénévoles
du festival La Belle Valette, voilà. Qui a lieu à Précigny-les-Pins, qui a réussi à avoir lieu d'ailleurs l'année dernière, malgré la crise sanitaire. Hergé est volontaire là-bas et bénévole là-bas comme photographe le jour du festival. Donc, enfin voilà, on est vraiment dedans. Et j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures avec les artistes. Et ils m'ont fait un très beau cadeau, c'est que les noms des artistes dans le livre, sauf le héros ou là.
Alors attends, le pseudo, t'appelles ça comment ?
Le Blaze.
Le Blaze.
Voilà. C'est-à-dire que signer Adrien Tartampion, c'est pas très sexy sur une fresque.
Moi, j'aime bien Tartampion, voilà. Personnellement.
Donc du coup, ils ont des Blazes qui sont très importants, qui ont une signification énorme.
D'accord.
Et en fait, ils ont accepté que mes personnages secondaires portent leur vrai Blaze dedans. Donc voilà. Donc à la fin du roman, bien sûr, il y a les pages Instagram où on peut aller découvrir leurs œuvres. Et c'est assez cosmopolite puisqu'il y a des artistes de France, mais par exemple aussi une des fresques très importantes du livre est l'œuvre de Lapiz, qui est un artiste qui vit en Allemagne. Et donc on échange en anglais, j'ai dû me remettre à l'anglais, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai réussi.
Tu le qualifies comment ton livre ? C'est une intrigue sentimentale ? C'est quoi ? C'est psychologique ?
C'est une histoire d'amour,
oui.
Mais je suis assez féministe, en fait. Donc, c'est une histoire d'amour où chacun doit apprendre à se respecter et à être l'énergie supplémentaire apportée à l'autre pour lui permettre de déployer ses rêves. Voilà.
On va rester là-dessus, c'est beau, non?
Je suis romantique.
Les filles, elles sont comme ça, elles sont féministes et romantiques, il faut apprendre. Merci, Émilie.
Merci, Sandrine.
Émilie Rigier, qui se racontait Entre Loire et Loin. Une entrevue que vous pouvez bien sûr retrouver en vidéo sur la page Facebook de l'émission avec plein d'autres infos comme d'habitude. Nous allons nous retrouver dans quelques instants avec Jean-Paul Billot, le président de l'Aglo Montargoise. Mais ça sera juste après une petite pause musicale.
Tu n'as plus de goût à la vie. Tu t'en vas seul et tu t'ennuies. Le temps se traîne, il fait noir dans ton cœur. Sur le passé, l'on te questionne. Tu te détournes, tu frissonnes. Oublie ta peine, tu as droit au bonheur. Bientôt, le soleil reviendra et tu te souviendras des vacances passées et des noms effacés sur la grève. Dans l'air, le son des rires clairs, le parfum du jasmin, dans le vent du matin qui se lève.
C2L Radio.
Entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Merci d'être avec nous. Caserne Gudin, Port-Saint-Roch, Université numérique, les grands projets sont à l'œuvre dans le Montargois. Et celui qui nous en parle, c'est le président de l'Aglo en personne, Jean-Paul Billot, au micro de Patrice Avzar.
Le Mag du Gâtinais entre Loire et Loin sur C2L Radio. Nous sommes avec Monsieur Billot, le président de l'agglomération. Monsieur Billot, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous souhaitons aborder trois gros sujets qui concernent l'agglomération, la caserne Gudin, le port Saint-Roch et le campus connecté. On va débuter avec ce dernier, le campus connecté. On en a parlé il y a à peu près un mois. Où ça en est de ce campus? Et puis, déjà nous rappeler ce que va être ce campus connecté.
Alors, ce campus connecté, c'est un lieu qui, à partir du 1er septembre, permettra aux étudiants du bassin de vie du Montargois. Alors, le bassin de vie, c'est quoi? C'est de Bellegarde à Courtenay, de Courtenay même sur Gien, toute la partie, on parle bien d'un bassin de vie, ce qui va permettre d'étudier et de suivre des études supérieures. C'est quelque chose, en fait, qui va être géré et organisé par l'agglomération montargoise, hein, c'est-à-dire ce lieu, il y a des contraintes, il y aura quelqu'un qui en sera responsable, qui va l'ouvrir, qui va le fermer, qui va en fait suivre les étudiants, il va y avoir des gens qui vont venir d'extérieur pour expliquer la vie, ce que c'est que la vraie vie, certaines professions, certains chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment un lieu où il va y avoir de l'animation. C'est un campus. Où s'en est ? Alors, il y a eu un appel à projet qu'il fallait déposer au 1er décembre, qui a été reporté, dont la date de dépôt a été reportée par l'État à fin janvier. Donc nous avons déposé notre projet. Nous avons été recevables, c'est-à-dire que tous les éléments nécessaires à l'intérieur du projet étant dans ce projet, donc nous sommes éligibles. Et il y a une semaine, avec le vice-président, M. Bourillon, en charge du numérique, nous avons défendu notre dossier, assisté par les techniciens de l'agglomération. Donc nous avions passé un examen, si on peut dire, qui nous a permis d'expliquer pourquoi un campus dans l'agglomération, porté par l'agglomération, pourquoi le lieu qui est prévu au départ, qui est en fait une salle du château, du lycée du château, qui nous met à disposition, moyennant une participation, une salle, qui va nous permettre dans un premier temps d'avoir un campus connecté qui devient effectif à la rentrée du 2 septembre. Car tous les étudiants du bassin peuvent aujourd'hui, étudier dans une... Alors après, ça dépend éventuellement s'il veut faire de la médecine, du droit, ou... Mais sachez qu'en France, quasiment aujourd'hui, il est possible d'étudier tout dans un campus connecté. Il y a en présentiel, le jour où on va s'inscrire à la fac, il y a certains travaux publics qu'on ne peut pas faire en campus. Mais il y a maintenant quasiment 100% des études sont possibles dans un campus connecté.
Voilà, ce campus, il va permettre à des jeunes qui peut-être de l'agglomération ou proches de l'agglomération qui n'ont pas les moyens, qui n'auraient pas les moyens d'aller plus loin, de poursuivre ces études.
Oui, tout à fait, c'est exactement. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel, tout le monde est au courant de ce contexte sanitaire qui n'est pas favorable aux étudiants. Mais le campus connecté et le contexte sanitaire, je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui, pour des raisons, je veux dire, sanitaires, ne peuvent pas être en présentiel dans les différentes facs et les différentes universités, je veux dire, ces gens-là vont repartir en fac et en université. Par contre, nous, comme vous le dites si bien, les gens que nous allons accueillir sont des gens qui, pour des raisons de praticité, de moyens, il y a plein d'éléments, hein, je veux dire, d'éloignement, qui vont pouvoir étudier au sein du campus connecté de l'agglomération montargoise.
Donc, si tout va bien, c'est pour septembre.
Alors, si tout va bien, pour tout vous dire, c'est mon souhait. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas éligible à ce campus connecté, ce qui financièrement nous donnerait quand même quelques moyens supplémentaires. Hein, parce qu'en fait, l'appel à projet, c'est que l'État croit en nous, nous aide. Nous sommes parrainés par la faculté de médecine de Tours. Pourquoi Tours ? Parce que l'IFSI, qui est l'école d'infirmières de Chalet, dépend directement de la faculté de médecine de Tours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes parrainés. Ça veut dire que la faculté de médecine de Tours croit en notre projet. Et je veux dire, on va nous suivre sur toute la durée du campus connecté, puisque c'est notre partenaire et parrain.
Et à partir de quel moment les jeunes, les étudiants pourront savoir s'inscrire ?
C'est-à-dire qu'on s'inscrit en ligne, on a différents vœux. Et aujourd'hui, sachez que le campus de l'agglomération montargoise est une possibilité dans Parcoursup. Voilà, j'ai retrouvé le mot. C'est Parcoursup. Donc à partir de ce moment-là, il y a possibilité de s'inscrire pour la rentrée de septembre, au campus connecté de Montargis et de l'agglomération montargoise.
Voilà, donc premier gros sujet ici sur C2L dans le MAC du Gâtinais. Ce campus, donc, autre gros chantier, lui, il fait parler, c'est la caserne Gudin.
Alors, ça ne m'étonne pas que vous me posiez cette question. La caserne Gudin, aujourd'hui, alors, vous êtes officiellement, nous n'avons pas été retenus pour l'appel à projet de la Bibliothèque nationale de France. Il faut savoir qu'avec l'appui de M. le sous-préfet de Montargis, on a fait recours, alors bon, avec peu d'espoir, mais un recours auprès de la préfète, parce que maintenant, alors, je ne sais pas si on dit une préfète ou un préfet, on nous a opposé des choses qui, à nos yeux, c'est un problème de surface, ne nous paraissaient pas tout à fait opposables. nous brassait pas en temps d'âme parce qu'on avait les surfaces nécessaires. Donc, par l'intermédiaire de monsieur le sous-préfet, on a fait un recours en disant, voilà, est-ce qu'éventuellement on peut pas revenir sur cette décision, parce qu'a priori, dans la région Centre-Val de Loire, aucune ville n'a été retenue pour cet éventuel appel à projet. Donc, voilà, alors, avec peu d'espoir. Si éventuellement le recours, chose qui, à mon avis, me paraît n'aboutit pas, nous avions été sollicités par le département du Loiret pour éventuellement désenclaver, pour que le collège du Chinchon puisse être à un autre endroit et soit désenclavé, parce qu'actuellement il est en centre-ville. Et c'est vrai que, en fait, on s'aperçoit, le département s'aperçoit que ça ne correspond plus tout à fait, parce que ça crée une arrivée d'enfants importante, il y a des aménagements qui sont difficiles parce qu'ils sont enclavés tout autour, les bus et tout ça. Donc, voir c'est la faisabilité au niveau de la caserne Gudin, du futur ou du collège du Saint-Chon. Et puis, vous avez toujours la partie, si vous avez vu, qui aujourd'hui, avec un permis construire qui a été déposé par la société Next City, pour un aménagement sur la partie au fond, si vous avez mieux, de l'aménagement Gudin.
On reste dans le secteur de cette caserne Gudin avec le canal et notamment ce port Saint-Roch.
Alors le port Saint-Roch, là, aujourd'hui, si vous avez mieux, là, normalement, les premiers coups de pelle, si on peut parler de premiers coups de pelle, je pense que c'est pour le deuxième semestre 2021. Tous les éléments sont bien avancés. Bon, nous sommes aujourd'hui, si vous aimez mieux, dans une... Alors, je ne sais pas comment on peut expliquer, mais dans une zone protégée par les bâtiments de France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est un petit peu en difficulté parce qu'il faut qu'on présente des choses qui soient validées par les bâtiments de France. C'est-à-dire, il y a l'aspect architectural, il y a d'autres aspects. Aujourd'hui, nous n'avons pas la main. Alors, le port Gudin, c'est en fait la partie portuaire qui est la partie, qui est de la compétence de l'agglomération, où il y a une délégation à la commune de Montargis, si vous avez vu, mais c'est toujours la partie agglomération qui gère en partenariat avec la commune de Montargis ce port. Pourquoi Montargis ? Parce que c'était au départ quelque chose qui avait été, il y a plusieurs décennies, je crois maintenant, commencé, c'était un projet qui était porté par la mairie, et par contre après, comme nous avons eu la compétence portuaire, c'est vrai qu'on travaille en partenariat. Et puis après, le port, c'est aussi toute la partie foncière, immobilière qui est autour du port. Et là, aujourd'hui, les terrains ont été acquis par l'agglomération montargoise. Par contre, ça c'est complètement de compétence communale. Et aujourd'hui, si vous avez mieux, ce qu'il faut, c'est éventuellement trouver un promoteur qui rachète les terrains à l'agglomération et qui construise toute la partie immobilière qui sera autour du port.
Oui, c'est quelque chose, ce port, qui sera un véritable atout touristique pour le Montargon en général, pas que Montargis.
Ah ben non, pas que. Hein. De toute façon, aujourd'hui, si la région et le département ont aidé l'agglomération pour la financièrement, je s'entends, pour la réalisation de ce port, dans le projet du port, c'est que le rayonnement est largement au-dessus, même on dépasse largement le bassin de vie de l'agglomération montargoise, hein, puisque c'est un rayonnement départemental, voire national. Donc évidemment qu'on compte beaucoup sur ce port pour donner à l'agglomération montargoise, si vous avez vu, l'essor qui devrait revenir et que l'agglomération montargoise mérite largement. Moi, ce qui m'importe, si vous avez mieux, et c'est aussi la façon dont je me suis présenté quand je souhaitais être élu à l'agglomération, comme président de l'agglomération montargoise, c'est, je veux dire, que le bien collectif, alors on ne va pas géographiquement, je veux dire, s'il y a 15 communes à l'agglomération montargoise, mais pour moi, le bassin de vie est très très important. Hein, et c'est vrai que l'agglomération montargoise doit reprendre sa place au niveau du bassin de vie. Et c'est ce qu'on essaie de faire toutes et tous ensemble, en m'appuyant sur les compétences de mes vice-présidents et sur toute la partie administration de l'agglomération montargoise pour qu'on reprenne notre place et que tous nos beaux projets aillent au bout et que ce soit des projets de rayonnement, je veux dire, bassin de vie. Quoi.
Monsieur Billot, merci.
Merci à vous.
Entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L et en vidéo sur la page Facebook de l'émission. On va parler théâtre dans quelques instants puisqu'on accueillera Aurélie Plot pour le nouveau spectacle de la compagnie Jeu est un autre, juste après une petite pause musicale.
tranquille, j'étais pépère avec mes copains de routine, percolateur et pompe à bière. Quand un beau soir ils sont entrés, quatre playboys et trois donzelles m'ont dit avec autorité, nous souhaiterions boire un cocktail. On veut un rhum pomme, un gin grenadine, une vodka Nutella, une tequila Tagada, un Beaujolais, un Sauvignon Passion, un Baileys Fraise, un whisky Kirikiwi. Ils ont dû se tromper d'adresse, on dirait qu'ils ne pigent pas, ou que c'est qu'ils ont posé leurs fesses, ici c'est pas le Lutetia. Seulement voilà, par ces temps de crise, faut pas refuser la clientèle. Ni une ni deux, hop, j'improvise, je vais leur en faire moi des cocktails. En voilà du rhum pomme, du viandoxon de rox, du sazano tabasco, du pernod porto pruneau, du guignolé, du bartisol menthol, du ricard poire, du whisky kirikiwi. Vous me croirez si vous voulez, ils sont revenus dès avec la gueule enfarinée et une brochette d'autre clampin. Je leur ai servi mes créations, y en a aucun qui a vomi. Y en avait même pour dire oh, c'est bon, et c'est vraiment the place to be. Dans mon petit bar qui paye pas de mine, c'est le défilé des vedettes. Je crois que j'ai trouvé la combine, chaque jour une nouvelle recette. Je fais des rom-poms, des gins grenadines, des vodkas Nutella, des tequila Tagada. Je fais du kirmir, du pif avec du sif, du desktop yop, du whisky kirikiwi, du mali du minidou, du pomerol vitriol, de l'eau de vaisselle javel. Et ça, ça part comme des petits pains. Alors, ce qui marche très très bien aussi, c'est le Red Bull Fuel, le mescal gasoil et mais ça c'est un peu... Il y en a qui sont restés coincés quoi, ils sont devenus aveugles et tout. Bon, excuse-moi, est-ce que vous faites le picon oignon goudron? Hein? Il est pas bon, hein?
C2L.
C2L Radio. We'll be right back.
It's the chair is meek, as weak as sand. Turn a glass upside down.
Écoutez toujours Entre Loir et Loin, le magazine du Gâtinais sur C2L. Les habitués du hangar, l'espace culturel de Chalette, ont déjà eu l'occasion de la voir à l'œuvre avec sa compagnie théâtrale Je est un autre. Aurélie Plot nous parle d'elle, de sa compagnie et de sa nouvelle création, une reprise de la pièce d'Heiner Müller Quartet qui est en cours d'achèvement. On la retrouve en joyeuse compagnie au micro de Sandrine Manteau.
Bonjour Aurélie Plot.
Bonjour Sandrine Manteau.
On commence en rigolant, franchement. On est entre filles aujourd'hui. Il y a plein de filles partout, vous voyez derrière aussi. Ouais. Il y a des filles, il y a Déborah, il y a Catherine Armesen. C'est super. Et Aurélie, toi, tu ne nous parles pas de livres, tu nous parles de théâtre.
Bah, on va parler de livres.
Obligé. Mmh. Mais on parle de théâtre parce que tu es metteur en scène, parce que tu es comédienne, parce que tu es... T'es responsable de troupe, t'es professeur de théâtre, raconte.
Oui, c'est ça. En fait, je dirige une compagnie.
Je est un autre. C'est beau, ça.
Oui, c'est beau.
Et tu m'as dit d'où ça venait.
Raconte. Bah, vas-y. Non, raconte-toi.
C'est une phrase de Rimbaud.
Exactement.
C'est ça, un vers.
C'est une phrase d'Arthur Rimbaud que j'ai découverte pendant mes études de lettres, parce que j'ai fait des études de lettres. Et cette phrase, elle m'a toujours habitée, parce que je suis totalement convaincue que c'est dans l'altérité qu'on se construit, en fait. Et c'est un peu l'histoire du théâtre aussi, hein. Je est un autre.
Alors, ta compagnie, elle a une belle histoire assez fulgurante, parce qu'elle est née il y a 3 ans.
Alors, elle est née en 2016, mais elle s'est constituée, en fait, dans un but de médiation culturelle, d'abord. Je suis intervenue pendant 1 an dans une école maternelle et élémentaire à Ferrières en Gâtinais. J'avais les enfants de la petite section au CM2 une fois par semaine en cours de théâtre. Et puis à la fin, on a écrit un spectacle ensemble avec de l'écriture au plateau, avec les maîtresses évidemment, autour de la thématique des migrants. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu la première production professionnelle de la compagnie, qui était donc une adaptation des Bonnes de Jean Genet, ouais, qui a été créé à Fontainebleau en 2018. Ça a joué ici, au hangar, en 2019. Et puis la future production professionnelle qui s'apprête à naître, là, au mois d'avril, qui est une pièce de Heiner Müller qui s'appelle Quartet.
Alors oui, on va en parler, voilà, parce que c'est un peu pour ça que tu es là, pour Quartet. Néanmoins...
Les monologues du vagin, donc là, on a fêté les 1 an de la représentation qu'on a faite au hangar le 6 mars 2020. C'était juste avant le confinement et juste avant le premier confinement, en fait. Et ça a été un moment incroyable, cette représentation des monologues. Et en fait, c'est un spectacle de mon groupe adulte.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, c'est mon groupe d'adultes amateurs, mais qui sont des amateurs chevronnés, hein, qui font du théâtre depuis 10 ans pour la plus tard. Ils sont 12. Et donc, avec eux, voilà, j'ai monté effectivement une mise en scène des monologues du vagin.
Et c'était assez triste, évidemment, parce que c'était un spectacle qui était très attendu et qui a été coupé, dont les ailes ont été coupées à cause du confinement.
Oui, dont les ailes ont été coupées. Ça devait rejouer à Orléans, ça devait rejouer aussi au hangar en novembre. Mmh. Et puis, bah, évidemment, voilà, les choses font que ça n'a pas pu se faire.
Et puis que ça n'a pas repris.
Les adultes n'ont pas repris du tout. les cours de théâtre, là.
Donc, du coup, tu es retombée sur tes pattes et tu t'es dit, je vais mettre en scène une pièce dans laquelle je vais jouer. Voilà.
Alors, c'était déjà le cas des bonnes.
Oui, parce d'accord. Que, voilà, dans les bonnes.
Dans les bonnes, je jouais et j'étais à la mise en scène. Et puis, Quartet, c'est un spectacle dont le travail a commencé en fait en septembre 2019. Donc, tu vois, c'est comme un projet.
C'est au long cours.
C'est un projet qui est donc sur deux saisons. Théâtrale et avec voilà, des résidences de création en région centre, dans différents lieux. Et puis là, on arrive un peu au bout du chemin.
Donc alors, dans cette nouvelle aventure spectacle qui s'appelle Quartet, ton alter ego, ton partenaire de jeu s'appelle ?
Raphaël Fournier.
D'accord, c'est un duo, mais comme tu me le disais, évidemment, il y a toute une équipe autour.
Il y a toute une équipe autour. Il y a Benjamin Poisson qui est créateur lumière, Étienne Geoffroy qui est créateur son. Sophie Dubos, chargée de diffusion, Un regard extérieur qui est Coraline Cauchy, metteuse en scène et dirigeante de structure à Orléans, compagnie Serre Chaude. Voilà, il y a un partenaire aussi institutionnel qui est très important, qui est le Hangar, puisqu'ils nous
merci
ont accueillis.
Le Hangar.
Voilà, merci Emmanuel Menot et la ville de Chalette aussi. voilà, donc oui, on est nombreux.
D'accord, ça c'est le côté technique. Tu me disais une chose qui m'a beaucoup plu tout à l'heure et interloqué, tu dis que c'est un spectacle très physique. Alors c'est un spectacle très littéraire et tu en as fait un spectacle très physique.
Oui,
c'est ça ?
C'est ça. Alors c'est vrai que c'est un spectacle très littéraire parce que c'est une excroissance des liaisons dangereuses de Laclos et Heiner Müller a vraiment réussi à reproduire cette langue du 18e. Donc c'est vraiment une langue qui est extraordinairement belle. Et c'est un duel. C'est un duel et en didascalie inaugurale en fait de sa pièce, Heiner Müller écrit que l'action se passe dans un salon d'après la Révolution française ou dans un bunker d'après la Troisième Guerre mondiale.
D'accord.
Et donc on est parti en fait sur l'idée d'avoir sous les yeux Merteuil et Valmont coincés en enfer sur une pyramide. Confinés sur une pyramide dont ils ne descendent jamais. Une pyramide qui fait 2 mètres de haut et 2 mètres 80 de large. Et donc, on ne cesse d'escalader, monter, descendre, entrer, sortir de cette pyramide. Et c'est pour ça que c'est un spectacle qui est effectivement très physique, puisqu'on a travaillé aussi sur... parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, moi, en tant que comédienne. On a travaillé sur la corporalité. Et donc, on est mi-être humain, mi-félin, mi-reptile. Donc, il y a tout un travail, en fait, sur le corps aussi, dans ce spectacle.
Sur la façon de se mouvoir.
Exactement. On ne bouge jamais comme des êtres humains, finalement. À de très rares moments.
Et également, tu m'as parlé de costumes et d'argile. Raconte. J'ai tout retenu.
Dit comme ça, c'est
j'ai
un
tout retenu.
Non, ouais, t'as tout retenu. Oui, alors les Merteuil et Valmont sont donc on a fait le choix d'académique noir. Donc un académique, c'est vraiment une tenue de danse. Donc c'est un juste au corps intégral, on va appeler ça comme ça. Que moi, je suis venue maquiller avec ce qu'on appelle du slastic, pour être un peu technique. C'est une sorte de
latex.
Alors c'est une peinture, mais qui en fait sèche et fait des aplats. Donc sur l'académique, en fait, ça vient créer une sorte de peau un peu brûlée. Hein. Donc la peau des damnés aussi, une peau de ces personnages qui viendrait aussi signifier la noirceur de leur âme. Et puis la pyramide a également ses aplats de slastique. Donc on est vraiment dans une relation symbiotique. La pyramide, c'est vraiment le troisième personnage de Quartet. Et donc on est vraiment dans une relation symbiotique. La pyramide nous appartient, mais on appartient aussi à cette pyramide qui est, vous le verrez quand vous verrez le spectacle, qui est un être vivant, qui est animé en fait au plateau.
D'accord. Et voilà. Cette argile que vous avez un peu partout, on ne va pas tout dire ?
Non, on ne dit pas tout, mais l'argile permet... l'argile, c'est génial parce que ça sèche.
C'est génial.
Alors ça vient aussi handicaper le comédien parce qu'on en a sur le visage et donc en séchant...
Vous avez du mal à parler.
Exactement. Tu imagines, tu as déjà fait peut-être un masque...
Ce matin même.
Eh ben voilà.
Voilà.
Ah mais c'est ça en fait. Et ce qui est génial avec l'argile, c'est que quand on bouge, en fait, ça vient se répandre un peu. Ça fait de la poussière en fait. Hein. Donc pour des êtres enfermés en enfer, qui sont presque en putréfaction, le fait de libérer cette poussière qui est en plus visible dans la lumière, c'était intéressant.
Est-ce que tu as toujours eu ce rapport au corps, ce théâtre physique dans d'autres créations?
Dans les bonnes, c'était aussi un rapport au corps particulier, avec une érotisation du corps. Les bonnes, c'est aussi un texte qui parlait de la folie, et c'était vraiment comme ça que j'avais eu envie de le traiter. Quartet, ça parle aussi de la folie, hein, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc évidemment, cette folie, cette domination, puisque dans Quartet, le fond, en fait, c'est le rapport au pouvoir, c'est la domination sur l'autre. Hein, Valmont et Merteuil sont deux libertins, mais il y a un écho effectivement qui est extrêmement contemporain, hein, sur l'emprise qu'on peut avoir sur l'autre, la manière dont on le fait souffrir, et puis évidemment ce que provoque l'exercice du pouvoir, en fait. Donc ça, c'est vraiment des questions qui m'intéressent. Et donc oui, ça, évidemment que ça se traduit par le corps, le pouvoir. Le pouvoir, il est aussi dans le corps. Et donc oui, c'est un travail qui m'a toujours intéressée. Et puis le corps, c'est le premier outil du comédien.
Bon, voilà. Ça donne beaucoup envie pour plein de raisons, parce que ce duo, de toute façon, avec la Merteuil, tu dois être merveilleuse dans ce rôle.
J'ai vraiment hâte. Tu viendras voir.
Alors je vais venir. Alors, j'adorerais venir le 8 ou 9 avril au hangar, mais je ne sais pas si je vais pouvoir, parce que c'est que les professionnels qui peuvent venir.
Oui, mais t'en es une professionnelle, puisque tu es intermittente du spectacle, Sandrine Manteau, donc tu as de la chance.
J'ai de la chance. Et vous serez obligée d'attendre les 18 et 19 novembre encore au hangar.
Oui.
Pour voir ça.
Voilà, parce que pour expliquer un petit peu le contexte, c'est simplement que les théâtres sont fermés. Donc
on a compris.
On est obligé de créer.
C'est pas vrai, on ne comprend pas en fait.
Non, on ne comprend pas.
En fait, on ne comprend pas. On subit.
Très clairement.
On a hâte. Merci Aurélie.
Merci Sandrine. À très bientôt.
À bientôt.
Ouais.
C'est deux L Radio.
Aurélie Plot, Entre Loire et Loin, une entrevue que vous pouvez également voir en vidéo sur notre page Facebook. Une petite pause musicale à présent et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission qui nous emmènera au pôle culturel de Courtenay en compagnie de Frédéric Baron et Pascal Cronier de Courtenay en poésie pour une magnifique expo qui mêle des photos, des textes et plein de choses très créatives. A tout de suite sur ces deux ailes.
Mas hoje esse domingo, domingo, quero te encontrar e desabafar. Estar ao seu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer. Esquecer a briga que deixou ferida e que até hoje...
O quê?
Parte da vida, abre o coração. Tudo tem sentido e tem razão. Cola seu rosto meu, chega mais perto de mim. Faça de conta que eu sou teu namorado. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer. De tudo você tem melhor. É bom demais, é tudo que eu posso querer. De tudo você tem melhor. Pior é te perder. Domingo, quero te encontrar e desabafar todo meu sofrer. Estar ao seu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer. Esquecer. É bom demais.
Bonjour Frédéric Baron, bonjour Pascal Cronier. Vous êtes un sacré duo.
Je crois, ouais.
Alors voilà, on est en ce moment au pôle culturel et associatif de Courtenay. Et il se passe une aventure artistique et humaine extraordinaire à travers cette exposition qui s'appelle « Des vies d'hier et d'aujourd'hui ». C'est ça ? Je ne me trompe pas. Des vies d'hier à aujourd'hui, je me trompe tout le temps, je crois.
Voilà.
Hein ? Et alors, les vies d'hier à aujourd'hui, on est devant les prémices de l'aventure. Explique-nous.
Exactement, nous sommes devant les plaques photographiques découvertes dans la crêperie dite bleue, la crêperie bleue de Courtenay, au cours de travaux. Ces plaques, qui sont au nombre d'une trentaine, ont été découvertes dans un des placards de vitrine de la crêperie. Il s'agit de plaques souvent très abîmées ou cassées. Et tout a démarré de cette découverte à partir du moment où j'ai vu ces plaques, j'ai eu envie de créer une exposition. Et c'est surtout des rencontres qui ont démarré à partir de cet instant. Et dont une fondamentale qui est avec M. Pascal Cronier, qui est au cœur du projet.
Ah, Monsieur Pascal Cronier ici présent. Parce qu'en fait, alors, il y avait deux solutions, Frédéric. Soit tu exposais les photos, pour ainsi dire, telles quelles.
Ce qui
est très beau. Et puis aussi, tu rencontrais sinon l'artiste qui faisait autre chose de ces photos.
Voilà. Alors c'est ça en fait, la proposition est là. On considère que le trésor, ce sont ces plaques à partir desquelles vont être déclinées des propositions artistiques. Donc Pascal, lui, qui est un grand connaisseur cartophile, et qui a une grande sensibilité, qui maîtrise un certain nombre d'outils numériques, a eu envie en fait de redonner vie aux modèles en fait qui sont présents sur ces plaques. Mais il y a beaucoup d'autres interventions effectivement, donc d'autres propositions artistiques, dont des poèmes, des textes. Et des constructions, on a reconstitué le studio du photographe par exemple.
Est-ce qu'on sait comment s'appelait ce photographe, Curtinien ?
Alors a priori c'est quelqu'un qui exerçait avant Jacquard, et il pourrait s'appeler, alors je ne saurais pas pour prononcer son nom, mais il s'écrit H-E-2-N-E-N, peut-être Hénin ou Hénène. C'est pratiquement sûr qu'au début du XXe siècle, ce monsieur existait en tant que photographe. On le retrouve dans les bottins, on retrouve son nom. Donc voilà, on peut supposer que c'est lui.
Alors, ça nous amène à une réflexion très intéressante. Vous avez fait un travail sur la mémoire, en fait. Et au-delà du caractère de beauté et plastique, artistique, esthétique de toutes ces plaques de verre, tu me disais tout à l'heure, c'est pas des cartes postales, oui, c'est des plaques de verre, encore une fois. Il y a tout un travail sur la mémoire et se demander qui sont tous ces gens dont on a perdu la trace. Le photographe, on a perdu sa trace, de toute évidence. On a du mal à se souvenir de son nom. Et en fait, on sait que, je crois qu'à partir de deux générations, on perd la mémoire des gens, c'est ça. Et vous, vous demandez, vous proposez aux Curtiniens et aux gens alentour de recouvrer cette mémoire, qu'elle soit fictive ou qu'elle soit réelle.
Exactement. C'est un des aspects, en fait, du projet et qui est venu de façon évidente. C'est de se dire, mais qui sont non seulement ces gens qui posent, les modèles, mais aussi qui est ce photographe. Et il s'agit de mémoire, de patrimoine, de liens. Et ce qui est assez magique, c'est que, alors là ici on est dans un studio, en fait on a essayé de reproduire avec Pascal le studio tel qu'il pouvait être à l'époque, mais à partir de là on peut se dire que on est en train de demander aux Courtiniens de créer ce lien, cette chose qui manque aujourd'hui, mais d'où est-ce qu'on vient, enfin où sont nos racines. Et je vais vous donner des exemples assez amusants de l'élan qui est créé par ce projet. Alors on a lancé un appel, un avis de recherche, et puis c'est pas, donc il y a 16 personnages qu'on a identifiés et qui font l'objet de cet appel via les réseaux sociaux, la télévision et puis des prospectus qu'on distribue au marché par exemple. Et bien les gens nous disent, ah, on sait pas qui sont ces gens, mais on aimerait bien vous montrer les nôtres, notre famille. Alors on reçoit des photos, des archives, des lettres, de Curtinien. Et c'est cet aspect-là qui est vraiment extrêmement intéressant. Et là, dans ce studio, justement, on a aussi fait un coin, un peu sanctuaire, avec les premières photos qui nous ont été envoyées. Et il y a des choses assez intéressantes. Je ne sais pas si la caméra peut y aller plus tard. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on est face à un phénomène de lien. Et on essaie tous ensemble, Curtinien, de savoir d'où on vient.
Alors oui, il y a des gens de tous âges qui t'ont contacté pour te donner, comme tu dis, des photos ou alors des documents. Alors ça va au-delà, évidemment. Là, on est dans les années 1900 avec ces plaques de verre. Mais en l'occurrence, c'est les gens qui ont eu envie de parler d'un passé plus proche, les années 40, les années 50, etc. Et qui vous font en fait récipiendaire d'une part de leur mémoire. Hein. Et on reconstitue un peu des archives, un peu d'ordre privé de cette ville. Qui, il faut dire, a plutôt tourné toujours son regard vers l'avenir, en fait, et le présent.
Oui, c'est ça, c'est peut-être pour l'avenir, le présent, l'avenir, c'est fondamental, évidemment, mais pour le construire, peut-être qu'il faut avoir cette conscience du passé. Et voilà, et ça reste très amusant. On veut quand même, là, je suis un peu sérieux, mais l'idée, c'est quand même de se réunir et de faire la chose avec le sourire.
Oui. Alors, néanmoins, on est dans un lieu très rétro, un lieu de reproduction des années 1900, mais derrière, il y a des jolies aventures du présent qui se sont passées, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé à créer certains éléments ici, qui sont des gens qui n'avaient pas forcément à la base l'habitude de rentrer dans ce type de dynamique collective, associative.
Exactement. Une fois présentée la découverte, qu'on appelle le trésor photographique, notre mémoire, les gens viennent spontanément proposer leur participation. Et il y a des histoires rigolotes, comme l'histoire de ces colonnes. Alors grâce à ce fameux Bébert, qui s'appelle comme ça parce qu'on ne lui a pas encore trouvé sa véritable identité, on a pu, grâce à lui et au fond, qui est la photo en fait, restitué par Pascal, on a pu imaginer comment était le studio à l'époque. Et donc Bernard, par exemple, un monsieur qui s'est proposé de nous faire les colonnes. Le matin à 11h30, je lui parle du projet, je lui laisse un document de témoignage, et à 14h le même jour, il m'appelle pour me dire que c'était prêt. C'est extraordinaire. Ensuite, un autre participant, Jean-Pascal, qui lui nous propose de faire le faux marbre. Et puis voilà, d'un seul coup, les colonnes sont là. Et puis on pense à la grande colonne de Bébert, mais on se dit, ah, il y a des enfants probablement qui vont être intéressés par ce projet parce qu'il faut impliquer les enfants. Et alors Bernard a proposé toute une chaîne de colonnes, de la plus grande à la plus petite. On en a trois, on en a gardé que deux ici parce qu'on n'a pas assez de place. Mais les enfants, même tout bébé, pourront poser devant le fond.
On pourrait les faire poser nus sur une peau de bête comme on faisait à l'époque. Hein, en l'occurrence, sur une fourrure.
On a cette photo-là.
Il y a également tous ceux qui ont monté l'exposition.
Voilà. Alors, Pascal, bien sûr, Cécile, Christian et beaucoup d'autres qui ont apporté un meuble, qui une décoration, un tapis, puis tous ces souvenirs aussi qui nous sont parvenus de façon spontanée. Et puis, la toile qui a été reproduite à partir d'un travail numérique de M. Cronier. Et le but étant, en fait, c'est de s'amuser, en fait, ici. Hein. On s'amuse, on rentre dans le studio du photographe et on pose. Et on a déjà une vingtaine de Curtiniens d'aujourd'hui qui posent. Et puis, il y a une histoire rigolote, un certain Gilles qui nous écrit et qui nous dit « Les gars, n'oubliez surtout pas de noter les noms de tous les gens qui posent aujourd'hui, parce que peut-être que demain, on sera encore en train de les rechercher. »
Dans 100 ans, on va les chercher.
C'est l'histoire d'une brèche, de poussière, d'obscurité, d'émulsion chimique, d'un brouillard du temps dans lequel des visages oubliés se sont frayés un passage. De tirages photographiques ratés, incomplets, abandonnés, cachés, ayant retrouvé la lumière parce qu'aucun visage ne peut vraiment s'oublier. Des Curtiniens sont revenus parés de rivières tourbillonnantes et de rideaux gélatineux levés sur la scène de leur spectaculaire retour. Ils nous regardent, profitant de la brèche. Nous les regardons éblouis, mais alertés. Il nous parle d'une victoire sur les effacements. Daniel Foucard.
C'est là que Pascal Cronier entre dans l'histoire. Voilà, dans l'histoire de Courtenay en poésie. Raconte.
Bah, on est parti sur une plaque photographique que Fred a trouvée dans la crêperie. Et puis de là, bah, il y avait énormément de plaques qui étaient complètement très jolies au demeurant, mais qui étaient abîmées, sans visage, sans la main, sans les pieds. Et grâce aux trentaines de cartes, j'ai pu reconstituer une image complète. Et j'ai fait même une création en reprenant des objets d'une plaque informatiquement et sur des logiciels de photos de façon à recréer l'image finale de ce que pouvait représenter exactement ce qui s'est passé dans le studio. Et on arrive à avoir une sorte de morphing de façon à arriver à cette belle femme qui est là avec son beau collier et cette belle mariée et puis voilà.
Donc tu les as mises en couleur également. T'es vraiment allé jusqu'au bout de ce qu'on peut proposer en restauration de photos. Ça devient, comme tu dis, on n'est plus dans la restauration, on est dans la création.
Oui, effectivement, il y a des couleurs sur du noir et blanc, on peut que les imaginer, comme le canapé avec un velours gaufré de gêne. On peut imaginer un rouge, un vert, un bleu. Pour avoir eu la chance d'être tapissier pendant 25 ans, je savais que cette couleur-là était typique des années 1900-1910. C'était le style qu'on aimait bien à l'époque. Voilà. Bon là, le carrelage, c'était rouge, c'était un peu marron rouge. Moi, je me rappelle ma mère qui frottait ses tomates avec qui était d'un rouge éclatant. Bon bah voilà, c'est l'idée. Voilà, c'est recréer la couleur que pouvait voir le photographe et que pouvaient voir les gens en 1900. C'est ça que je voulais absolument faire ressortir aux gens. C'était l'idée.
Alors on fait un focus sur toi. Toi tu es cartophile, ouais. T'as 3000 cartes postales chez toi.
Plus que ça. J'ai à peu près 10 000 cartes.
10 000, bon d'accord.
Faut peut-être pas le dire trop. Non mais ils n'ont pas tous de la valeur. Hein. J'ai à peu près 10 000 cartes, ouais. Toute la France confondue. Ouais.
Et alors tu as un site et tu reconstitues tout l'imaginaire qu'il y a autour des cartes postales. Raconte ce que tu fais.
J'anime des cartes postales, c'est-à-dire que je me perds dans la carte postale à force de les regarder et j'arrive à voir des objets qui bougent. Et un jour, je me suis dit, mais attends, sans rien prendre, c'est pas normal que tu vois des choses comme ça. Et en définitive, je faisais bouger des personnages, des trains, des voitures et tout ça.
J'ai voulu vraiment le faire
et j'ai réussi à le faire. Et j'ai fait un film, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois et puis voilà, j'anime des cartes postales. C'est un peu fou, mais c'est comme ça.
Alors c'est ce qu'on verra. Ensuite, il y a une autre salle qui est le grand théâtre en fait du pôle culturel. C'est aussi l'occasion de découvrir un lieu absolument magnifique. Et là-bas, il y a un des films que Pascal a créé à l'occasion de cette exposition. Pascal Cronier, en fait, tu es allé plus loin que la demande que t'avais faite Frédéric, quelque part. Enfin, dès le début, tu es allé plus loin. Parce que non seulement tu as restauré les plaques de verre, mais en plus, enfin du moins les reproductions, en plus tu as colorisé. Et puis, tu as eu envie de faire un film qui nous parle des années 1900. Alors là, ce qu'on voit là, ça n'est pas les plaques qu'on a retrouvées, on est d'accord. C'est ta collection personnelle.
En partie ma collection et une autre partie à Jacques Julien qui m'a gentiment prêté des cartes postales que j'ai scannées en haute définition de façon à avoir une bonne netteté sur le film.
Et alors au-delà du catalogue, enfin il y a les cartes postales qui passent, mais à un moment donné, toi tu les mets en mouvement.
Ouais, j'anime des éléments. C'est là. Voilà, le train qui arrive, l'avion qui a perdu sa banderole du printemps des poètes, mais voilà, il passe au-dessus. Et c'était l'idée. Quand je regardais mes cartes postales, l'idée, c'est que j'arrivais par la fatigue, peut-être, j'en sais rien, je voyais bouger. J'ai dit, c'est pas possible, ça bouge tout seul. Et de là, j'ai dit, attends, on va essayer de les faire bouger, ces cartes. Et voilà, donc Ouais, j'ai appris par un ami qui m'a initié à des montages photos, films. Et puis je suis parti de voilà, autodidacte, mais complètement, j'ai fait des films comme ça. Voilà.
Alors là, on n'a pas mis le son, mais tu as mis là-dessus des chansons de Bruant, puisqu'on est au ouais, pays de Bruant, donc c'est comme
paraît, ça. Ça me paraissait évident de mettre Bruant, l'époque 1900, même si Bruant, bah, on va pas faire l'histoire de Bruant tout de suite, mais bah, même si Bruant était déjà à Courtenay, quasiment en 1900, mais c'est devenu naturellement. Bruant et Courtenay, c'était pour moi là, obligatoire.
Alors voilà, moi ce qui me paraît, Pascal, très intéressant dans cette exposition, dans ce travail en fait pluridisciplinaire, on aurait pu, si Frédéric était là, on aurait pu lui en parler aussi, c'est que on va du grand populaire, parce que ça a été un des grands succès de l'exposition, ton film, tu le sais, t'es fier.
Un peu, ouais. Ah non, mais c'est obligé. Quand tu donnes tout par amour, parce que c'est des heures et des heures de travail et pour faire plaisir aux gens. Et puis je voulais surtout que ça soit populaire. C'est de la pâte à modeler. Hein. Moi, je fais de la pâte à modeler. Je fais pas Avatar. Hein. J'en suis incapable.
Donc, on a du grand populaire avec ce film. Et puis, on va jusqu'au texte de Daniel Foucard, Onde. C'est ça qui est beau. Voilà, c'est le côté pluridisciplinaire et le côté différents niveaux de lecture dans cette exposition. Voilà. Donc, elle est visible, cette exposition, jusqu'à...
Le 27 mars.
Voilà, jusqu'au 27 mars, vous venez ici, vous téléphonez avant parce que c'est aux horaires de la médiathèque, c'est un peu compliqué. Donc, vous les appelez, vous pouvez prendre rendez-vous, vous aurez une médiation culturelle, comme on dit, de grande qualité avec Corinne Lorenz ou peut-être avec Frédéric Baron s'il est dans le coin.
Des vies d'hier à aujourd'hui, c'est jusqu'au 27 mars, donc au pôle culturel de Courtenay, une magnifique exposition. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro de Entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais, que vous pouvez retrouver en vidéo, comme chaque semaine, sur notre page Facebook. On remercie toute l'équipe, Patrice Savzar, Anita, JB, Sandrine Manteau, bien sûr, et moi-même, tiens, Pascal Weber à la réalisation. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout, toujours plus nombreux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec encore plein de belles rencontres du Gâtinais, bien sûr. Et passez un bon week-end à l'écoute de ces deux ailes.